Ah, alors là, le papier auquel je n'ai absolument rien compris, sauf le dernier paragraphe. Mais j'en suis sûr, un ignare dans ce domaine, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs de la base. Si j'y suis, Aurélien Barraud, vous avez exactement 7 minutes pour nous initier à la cosmologie, au Big Bang, au trou noir, bref, à l'origine et à l'évolution de l'univers à travers votre regard d'astrophysicien.
Mais 7 minutes dans quel référentiel? Tout est là, c'est une question de relativité. Non, la cosmologie est une science un peu singulière, évidemment de par son objet d'étude. Parce que l'univers, ce n'est pas n'importe quoi, et il faut tenter de l'appréhender dans toute l'étendue de sa spatio-temporalité, sans limite aucune. Elle est aussi spécifique dans sa méthode, parce que l'expérience en question, la création du monde, n'a, semble-t-il, eu lieu qu'une fois. Il faut donc ajuster un peu notre procédure usuelle d'inférence des lois. Et pourtant, force est de constater qu'en dépit, ou peut-être même grâce d'ailleurs à ses spécificités, la cosmologie est devenue une science, et même une science de précision. Aujourd'hui, elle est fondée sur une grande théorie, la relativité générale, qui nous apprend que l'espace est une entité dynamique. Autrement dit, l'expansion que l'on observe n'est pas une expansion des corps dans l'espace.
Où est-ce que je peux observer l'expansion, moi?
Mais partout, chaque point du cosmos s'éloigne de chaque autre. Et c'est un mouvement de l'espace lui-même. C'est l'espace qui se dilate. Pourtant, un certain nombre de paradoxes viennent s'immiscer dans ce paradigme. Et c'est là que ça devient intéressant.
Ben oui.
Mais ne riez pas, à moins que ce soit un rire jubilatoire.
Jubilatoire, mais jubile. Tout le monde jubile.
Je crois qu'on peut espérer être à l'aube d'une nouvelle révolution. Peut-être celle du multivers. Pensez à la relativité.
Ah, l'univers,
multi-univers. Regardez, la relativité générale prédit, au moins dans certains cas, un espace infini. Si l'espace est infini, les univers le sont aussi. Tout ce qui est possible doit alors se produire. Autrement dit, il existe des copies à l'identique de chacun d'entre nous. Un monde, Daniel Mermet, où vous devenez immédiatement, là, tout de suite, un vieux réactionnaire. Un autre, celui-ci, je crois, vous restez cet éternel jeune subversif. Mais tout peut a priori avoir lieu. La mécanique quantique, l'autre grande théorie du XXe siècle, qui nous montre qu'à petite échelle, tout devient discret, discontinu, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle aussi prédit son multivers. Puis il faut aller encore plus loin. Il faut concilier cette mécanique quantique avec la relativité générale. Ce que fait ce qu'on appelle la gravitation quantique, à boucle par exemple. Elle prédit aussi son multivers. Vous le voyez, multivers spatial, parallèle, temporel, mais on peut aller encore plus loin. Pensez à la théorie des cordes, qui essaye d'unifier toutes nos interactions comme s'il s'agissait de différents modes de vibration, de petites cordes élémentaires. Un peu comme une corde de violon, suivant la position des doigts sur le manche, elle peut générer toutes les notes. Eh bien, celle-ci, quand on la concilie avec le scénario cosmologique, peut donner naissance à une infinité d'univers où cette fois même les lois sont différentes. Copernic, Darwin, Freud, ce serait notre univers lui-même qui se trouverait déchu de son piédestal et réinterprété comme un petit îlot, dérisoire et contingent. Alors je crois que c'est une proposition intéressante parce qu'elle floute un peu comme ça, elle revoit les linéaments des pratiques des sciences dures, mais elle pose aussi quelques questions sociétales. Une question politique évidente parce que la pratique de ces pensées audacieuses est rendue délicate en ce moment de par l'importation systématique des dogmes libéraux là où ils ne peuvent pas fonctionner, enfin supposer qu'ils fonctionnent quelque part, de par l'évaluation à outrance des chercheurs, de par la précarisation des emplois de la recherche et le financement sur projet.
Ça c'est la partie du papier que j'ai comprise.
Oui, c'est celle que j'ai. Bon, bref, c'est celle dont je suis le plus heureux finalement, parce que c'est celle dont il est le plus rare de pouvoir parler pour un scientifique. Et là, effectivement, on peut craindre qu'il s'agisse au pire d'une incompréhension totale des mécanismes de création intellectuelle de par les pouvoirs publics. Ça, c'est plutôt au mieux en fait, ou au pire d'une volonté délibérée de les museler et de ne pas permettre ces développements.
Et je crois. Et dans quel but, quel est l'intérêt de limiter, de museler?
Parce que toutes les pensées hors des sentiers battus ont quelque chose de la déconstruction. Est donc quelque chose de la subversion. Et je crois que tout ce qui questionne l'ordre établi ne se fait pas nécessairement par les voies sociétales, économiques et sociales, mais peut aussi se faire par les voies scientifiques, ce qui, pour certains, est peut-être plus inquiétant encore. Mais c'est aussi donc une question philosophique.
Est-ce qu'on a eu des époques où la conjoncture était plus favorable à cet esprit transgressif, subversif? Ou bien est-ce qu'on vit vraiment une époque non formidable, c'est-à-dire complètement médiocre aujourd'hui?
Ça serait plus facile de vous répondre si vous me demandiez s'il y a eu des époques pires, hein, du point de vue conjoncturel. Je crois du point de vue des idées, les choses vont pas mal. Mais du point de vue du déploiement possible de ces idées, c'est-à-dire du contexte, les choses sont pratiquement dans la situation la pire, je crois, parce que précisément la production de connaissances, ou plutôt la création de monde, puisque c'est quand même de ça dont il est question ici, n'est plus du tout à l'ordre du jour. La logique et la hiérarchie et le rouage économique s'est inséré à un tel point, s'est immiscé à un tel point dans le monde scientifique que quelque chose de grave peut se produire, ou pas. Mais disons qu'il y a un besoin clair, à mon avis, de résistance. Résister, c'est créer, écrivait Deleuze. Je crois que c'est à nous aujourd'hui de le mettre en pratique.
Je me souviens de nuits que j'ai passées devant un télescope.
Hubert Reeves, astrophysicien.
Et alors, il faut vous dire que là, on se sent très loin. On se sent très loin de la Terre. On se sent presque, on se dirait presque dans une capsule spatiale. On a devant soi, au télescope, une étoile qu'on regarde. On passe des heures très calmes. Tout est toujours très calme, très détendu. Et les travaux que vous avez à faire, ajuster le télescope pour pas que l'étoile dérive ou des choses comme ça, vous prennent très peu de temps. Alors vous avez beaucoup de temps pour méditer, pour sentir. Et on se sent plongé très loin de la Terre, on se sent plongé dans le monde, dans l'univers, dans le monde des étoiles. Je me souviens d'avoir longuement regardé une étoile et de m'être imaginé, par exemple, que j'en approchais progressivement et que je la voyais prendre des dimensions. Et j'imaginais qu'il y avait là des planètes et qu'il y avait des gens qui habitaient là. Et je me sentais très près d'eux. Une nuit dans un observatoire, ça vous nourrit, pas seulement sur le plan intellectuel, mais ça vous nourrit sur le plan émotif. C'est une émotion si profonde que vous en êtes marqué.